7h44 à Paris, tout de suite les principaux titres de l'actualité internationale.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
C'est le début aujourd'hui de sa dernière semaine en tant que président des États-Unis et Joe Biden doit tenir un discours de politique étrangère devant le département d'État. Lundi prochain, ce sera donc son successeur, Donald Trump, qui sera investi en tout cela dans le contexte d'incendies meurtriers et dévastateurs toujours en cours dans l'Ouest américain, Los Angeles et sa région. Au moins 24 personnes sont mortes selon un nouveau bilan fourni par les autorités hier soir et la crainte est forte alors que les services météo annonce le retour des vents violents, des vents chauds et secs, jusqu'à mercredi. Des incendies toujours pas maîtrisés. Le président ukrainien a proposé d'envoyer 150 pompiers sur place. Joe Biden, toujours président américain, à qui Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, a fait part des progrès réalisés dans les négociations en cours concernant la libération des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. À l'issue d'une réunion à Riyad hier entre ministres des Affaires étrangères européens et du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite a appelé à lever les sanctions imposées à la Syrie, et cela un mois après la chute de Bachar al-Assad. La France et Mayotte toujours en alerte rouge, au moins jusqu'à ce soir, après le passage de la tempête Dikeledi qui a causé d'importantes inondations à Mayotte plus d'un mois après le passage du cyclone Chido. En Inde, le début aujourd'hui de la Kumbh Mela, un pèlerinage qui s'annonce comme le plus grand rassemblement humain jamais organisé. L'événement se tient tous les 12 ans et le gouvernement attend cette année jusqu'à 400 millions de visiteurs le long du Gange dans l'état de l'Uttar Pradesh. Aujourd'hui aussi au Mozambique, l'Assemblée nationale élue lors des élections du 9 octobre se réunit pour une première session parlementaire avant l'investiture mercredi de Daniel Chapeau. Et tout de suite, la revue des journaux africains. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, la crise franco-algérienne.
Oui, rien ne va plus entre Paris et Alger, sujette à de récurrentes perturbations. Les relations franco-algériennes ont rarement connu un niveau de dégradation que celui observé ces derniers jours, constate Le Matin d'Algérie, et ce en raison de l'accumulation de tensions qui se sont exacerbées depuis la fin de l'année dernière. Les déclarations polémiques au vitriol échangées entre les présidents des deux pays autour de l'incarcération de l'écrivain Boualem Sansal sont les signes d'une montée en cadence dans l'escalade verbale d'un degré jamais égalé. Le refus de l'Algérie d'accueillir sur son sol Boualem Naman, l'influenceur algérien de 59 ans, expulsé de France jeudi dernier, ce refus vient de donner une tournure imprévisible aux relations bilatérales entre l'Algérie et l'ex-puissance coloniale. Visiblement, relève encore Le Matin d'Algérie, le conflit a atteint un point de non-retour. Reste à savoir quelle suite connaîtra cette affaire dans un proche avenir. Les deux capitales s'en tiendront-elles au mot ou bien iront-elles jusqu'à la rupture des relations diplomatiques?
Dernier épisode de ce bras de fer franco-algérien dans un contexte où les intérêts diplomatiques, économiques et migratoires se chevauchent. Paris semble vouloir utiliser l'attribution des visas comme levier de pression sur Alger, pointe le site Observe Algérie.
En effet, précise Observe Algérie, la France envisagerait de revoir à la baisse le nombre de visas accordés aux Algériens, tout en conditionnant son aide au développement à des engagements clairs de la part d'Alger. En Algérie, ces déclarations ont été perçues comme une tentative de chantage, constate le site algérien. Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé une campagne de désinformation et de manipulation. Les médias et l'opinion publique algériens n'ont pas manqué de réagir. Beaucoup dénoncent une politique néocoloniale de la part de Paris visant à maintenir une forme de dépendance ou d'influence sur l'Algérie. L'Algérie qui souligne Observe Algérie, forte de son rôle stratégique en Afrique du Nord et de sa position sur le marché gazier, semble de moins en moins disposée à se plier aux exigences de Paris, encore moins au chantage, au visa. Elle revendique une relation d'égal à égal, loin des pressions et loin des politiques paternalistes.
El Ouattan, proche du pouvoir algérien, s'en prend directement au président français.
Emmanuel Macron, qui se noie dans la gouvernance, croit sauver sa peau en surfant sur la vague extrémiste qui déferle sur son pays. Il n'a pas hésité à employer des mots immatures qui déshonorent la stature d'un vrai président. Dans cette cavale française, il se trouve qu'un Boualem en cache un autre, poursuit El Ouattan. Après Sansal, l'écrivain fraîchement naturalisé, vient le tour de l'influenceur Naman Boualem, propulsé par les mêmes milieux haineux pour maintenir la pression négative sur notre pays. Le quotidien d'Oran renchérit. La France est dans une mauvaise passe, écrit-il, et ses responsables, à défaut de trouver des solutions aux problèmes qui se posent avec acuité, tant sur le plan politique qu'économique, tentent de focaliser l'attention de l'opinion sur le bouc émissaire, l'émigré, particulièrement algérien, ainsi que sur ces pays africains qu'on ne trouve plus assez dociles pour accepter le néocolonialisme.
À l'origine de la crise, relève pour sa part le Monde Afrique, il y a le dossier du Sahara occidental.
Oui, à savoir la reconnaissance l'été dernier de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Si le changement de pied français sur ce dossier a permis la réconciliation avec le Maroc, il a en revanche précipité le divorce avec Alger. La rupture a été d'autant plus violente que le président Tebboune, qui avait noué une relation de confiance avec Emmanuel Macron, s'est de facto senti trahi. Résultat, poursuit le Monde Afrique, du Sahara occidental à l'affaire Boualem Sansal, sur fond de crispation répressive en Algérie et de diffusion d'un discours hostile à l'Algérie dans les médias français proches de l'extrême droite, la crise semble s'emballer inexorablement. Alger a retiré son ambassadeur à Paris fin juillet 2024, tandis que l'ambassadeur français en poste à Alger, Stéphane Romaté, est privé sur place de tout contact politique. La coopération sécuritaire est à l'arrêt, les échanges autour de la réconciliation mémorielle sont suspendus. Quant aux relations économiques, elles sont de plus en plus fragilisées par des mesures de rétorsion prises par Alger. Et le Monde Afrique de conclure, l'éclaircie d'après orage n'est assurément pas pour demain.
Frédéric Couteau, RFI, 9h50 à Kampala. L'Ouganda, où l'opposant historique au président fait son retour devant un tribunal militaire aujourd'hui, Kizza Besigye est poursuivi depuis novembre dans une affaire de possession illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. Mais alors pourquoi de telles poursuites devant un tribunal militaire? Est-ce que cela a un lien avec la présidentielle de février 2026? Autant de questions que Christophe Boisbouvier pose à Florence Brisset-Foucault, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 1 et affiliée à l'université de Makerere à Kampala.
Florence Brisset-Foucault, bonjour.
Bonjour.
Depuis le 20 novembre, l'opposant Kizza Besigye comparaît devant la justice militaire ougandaise pour possession illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. Est-ce que ce chef d'accusation est crédible?
Alors, c'est pas la première fois que Kizza Besigye a été accusé de collusion avec des rebelles armés pour renverser le gouvernement. Ça avait déjà été le cas en amont de l'élection présidentielle de 2006. À l'époque, les accusations n'avaient absolument pas tenu. Il avait finalement été blanchi. Pour cette fois, bon, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça fait partie de ces formes classiques de décrédibilisation de l'opposition qui sont utilisées par le régime.
Alors, ce qui frappe tout de même, c'est que Kizza Besigye, qui est médecin, qui est civil, comparaît devant un tribunal militaire.
Ah oui, tout à fait. Et ça, ça fait partie des nouveautés, je dirais, des 4-5 dernières années en Ouganda. Et ça continue, même si il y a quelques années, en 2022, il y avait une décision de la Cour constitutionnelle qui disait que c'était illégal de poursuivre des civils en cour martiale, mais ça se poursuit et il n'est pas le seul à être dans ce cas. Il y a quelques jours, son avocat, Aaron Kizza, qui est lui aussi un civil, a été condamné à 9 mois d'emprisonnement pour outrage à la cour, par une cour militaire également, en quelques heures, et visiblement en toute irrégularité.
Donc ça ressemble à du harcèlement judiciaire.
Kizza Besigye disait lui-même, il y a quelques années, qu'il avait été arrêté des dizaines de fois et qu'il avait arrêté de compter. Donc oui, je pense que ce qualificatif est tout à fait idoine, je dirais.
L'épouse de Kizza Besigye, Winnie Byanyima, qui dirige le programme ONU-SIDA pour le monde entier, affirme que son mari a été kidnappé en novembre à Nairobi, puis transféré de force à Kampala. C'est quand même pas très courant. Comment se fait-il que le Kenya ait laissé faire cela?
Oui, elle parle, Winnie Byanyima a parlé de paradis des kidnappeurs, pour parler de la capitale du Kenya, Nairobi. Donc c'est évidemment une formule très forte. Là encore, Kizza Besigye n'est pas le seul opposant étranger à avoir été arrêté récemment dans la capitale du Kenya. Il y a eu aussi des opposants turcs, sud-soudanais, rwandais, nigérians qui ont fait les frais de cette pratique. Concernant les Ougandais, c'est pas le seul non plus. En juillet dernier, il y a une trentaine d'opposants ougandais qui s'étaient rassemblés du côté de la ville de Kisumu, dans l'ouest du Kenya, qui ont été aussi arrêtés violemment, puis mis dans des camionnettes et transportés de l'autre côté de la frontière pour être ensuite emprisonnés en Ouganda. Donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé.
Dans les années 80-90, le docteur Kizza Besigye était le médecin personnel de Yoweri Museveni, mais depuis 25 ans, il est son principal opposant. Il a aujourd'hui 68 ans, soit 12 ans de moins que le chef de l'État ougandais. Est-ce que Yoweri Museveni en a encore peur?
C'est difficile à dire. Moi, la manière dont je vois cette arrestation qui a surpris beaucoup de monde, parce que Besigye n'était plus tellement sur le devant de la scène politique. C'était une autre figure de l'opposition, Bobi Wine, qui avait pris la suite, notamment lors de l'élection présidentielle de 2021, la dernière élection présidentielle. Et Besigye était plutôt en retrait. Donc, on a été un peu surpris de cette arrestation. Moi, la manière dont j'interprète les choses, c'est que c'est une démonstration de force et une manière pour Museveni de montrer que c'est toujours lui qui tient les règles règles du jeu.
À la présidentielle de l'an prochain, tout laisse penser que Yoweri Museveni, qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, va se représenter pour un 7e mandat. Quelles sont les chances de l'opposition face à lui ?
Les chances de l'opposition, elle est extrêmement fragmentée, éclatée, avec beaucoup de mal à créer des liens et à s'accorder pour une candidature unique. En 2021, donc, Beziguet ne s'était pas présenté, ce qui a permis à Bobi Wine, entre autres, d'avoir un score tout à fait correct, 35%, en tout cas un score qui correspondait au score de Beziguet à l'élection de 2016. Donc on ne sait jamais, mais étant donné le passé récent, je ne suis pas très très optimiste pour l'opposition.
Depuis 3 ans, l'un des fils de Yoweri Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, qui est chef d'état-major de l'armée ougandaise, aspire ouvertement à succéder à son père. Mais en septembre dernier, il a promis qu'il soutiendrait son père une dernière fois pour la présidentielle de 2026. Est-ce que ce fils impétueux n'est pas en train d'affaiblir le camp du président ?
Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi un autre joueur dans cette arène, autour de la question de la succession, c'est le gendre, en fait, qui s'appelle Audrey Rwabwogo, qui est marié à la deuxième fille du président, la pasteur Patience Rwabwogo, et qui a été au départ assez critique de Museveni, puis qui s'est rapproché de lui. Et il y a quelques mois, il y a eu une violente dispute entre Muhoozi, donc le fils, et Rwabwogo, le gendre, sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'Ougandais interprètent cela comme étant une dispute par rapport à la question de la succession.
Florence Brisset-Foucault, je vous remercie.
Entretien avec Christophe Boisbouvier, retrouvé sur le site internet d'RFI. Maman, on ne le dira jamais assez lors de notre rendez-vous du matin ensemble, le ministre des mots qui énerve les gens est indispensable au Gondwana.
Oui, les gens ont toujours été fascinés par ce ministère si particulier et spécifique à la très très démocratique République, le ministère de la communication et des mots qui énervent les gens, dont l'intitulé exact est « Ministère de la communication, de la préservation de la belle image du Gondwana, de la vérité alternative et des mots qui énervent les gens ». Vous comprenez aisément pourquoi les gens préfèrent utiliser l'appellation plus ramassée et plus punchy de « Ministère des mots qui énervent les gens ». Dès que tu entends que le ministre des mots qui énervent les gens va prendre la parole, tu sais qu'il ne fera pas le voyage pour rien, hein. C'est son rôle. Son Excellence Président fondateur a créé ce ministère pour ça et rien d'autre. Ce n'est pas pour rien qu'il est le plus efficace et le plus connu de tous les membres du gouvernement. Comme disent les journalistes, c'est un ministre qui imprime, c'est un ministre qui laisse des traces. Il n'est pas biodégradable comme d'autres ministres dont on ne connaît ni le nom ni le visage et qui passent aussi vite qu'on les a oubliés. Quand Président fondateur ne veut pas qu'on parle de la vie difficile au Gondwana, comme par exemple l'augmentation des prix, l'insécurité, son 12e mandat présidentiel qui est à lui parce qu'il est à lui, etc., eh ben, il envoie à la télé le ministre des mots qui énerve les gens. Tout de suite, celui te sort des dingueries, comme disent les jeunes, des dingueries dans le genre « on cherche à humilier le Gondwana ». Le Gondwana, tu l'aimes ou tu le quittes. L'immigration n'est pas une chance pour le Gondwana. Les gens ont oublié de nous dire merci. Les narco-racailles n'ont plus de limites. C'est le produit de l'ensauvagement et de la mexicanisation de la société, etc. etc. Comme son nom l'indique, le ministre des mots qui énervent les gens a le sens de la formule et des mots qui vont énerver les gens, mais surtout des mots dont les journalistes raffolent et qui vont les occuper pendant quelques jours. Quelques jours pendant lesquels ben, ils ne parleront pas de ces choses dont le président fondateur ne veut pas qu'on parle. C'est grâce à cette invention géniale que la très très démocratique République dépasse les autres pays. Le ministre des mots qui énervent les gens n'a rien d'autre à faire qu'être le ministre de la parole et de l'image. Il n'a pas de cabinet, pas de bureau, pas de secrétaire, ni de collaborateur, il est tout seul. Là où dans d'autres pays, ben, il y a le ministre de la communication, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense, et ben, à lui tout seul, le ministre des mots qui énerve les gens du Gondwana, et ben, il fait le boulot de tous ces ministres des autres pays qui essayent d'exister en lançant des mots pour énerver les gens. Au Gondwana, président fondateur est tranquille. Quand il prend la parole, eh bien, le ministre des mots qui énerve les gens a déjà rempli sa mission. Et notre leader bien-aimé peut alors venir tranquillement apaiser les gens comme il l'avait prévu, comme dans les films américains, le good cop après le bad cop. À demain.
Maman, du lundi au jeudi sur RFI. À demain, dans une minute, le journal international. Nous appellerons Justine Rodier à Mamoudzou, Mayotte en alerte rouge avant le passage de la tempête d'Ikeledi.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
Vous devez entendre nos cris, vous allez voir nos gueules. Le journal d'un exilé, c'est le premier roman d'Amadou Barry qui rend à ses compagnons d'infortune venus de Conakry, Dakar ou ailleurs des visages, des destins, une humanité.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Le débat du jour, Romain Ozoui.
Géopolitique, environnement, société, économie, sport, nous abordons tous les sujets, nous confrontons tous les points de vue.
Non, mais je m'inscris en faux sur tout ce qui est dit à propos...
C'est pas vrai.
Ah, mais c'est un mensonge.
Ah, si, il y avait le logo.
Ça paraît compliqué, là, pour le moment. Je crois qu'il faut plutôt savoir ce qu'il n'a pas fait.
Les plus grands spécialistes s'expriment sur ce qui fait l'actualité. Le débat du jour, c'est du lundi au jeudi à 17h30 TU sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Allons-nous réussir à préserver une planète habitable pour tous les humains en harmonie avec l'ensemble du vivant ? C'est la question à laquelle nous répondons chaque semaine dans C'est pas du vent. La bonne nouvelle est que nous connaissons le chemin pour y parvenir. Toutes les solutions sont à notre portée.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à 14h10 TU sur RFI.